Quand j'étais au lycée, en dernière année, j'ai changé de section et j'ai donc rejoint une classe que je ne connaissais pas. Quelques semaines après la rentrée, une fille que j'avais croisée à l'aumônerie est venue me voir pour me mettre en garde, pour me prévenir que le leader incontesté de cette classe, celui qui allait devenir chef de classe, pour qui j'allais voter, était un mytho. Pas au sens où on l'entend aujourd'hui de façon très familière, vraiment au sens pathologique, un vrai mythomane qui inventait sa vie. Pendant plusieurs jours, je me suis demandé lequel des deux me mentait. Et puis, quand même, je m'en suis aperçu que finalement elle disait vrai et que c'était lui qui racontait des histoires imaginaire, sans qu'on s'en aperçoive tout de suite, c'était très bien fait. Alors juste pour l'anecdote, il a fait une brève mais fulgurante carrière politique. Allez savoir pourquoi. Avec l'aide, il faut quand même le mentionner, de la franc-maçonnerie. Non qu'elle ait toutes les tares dont on l'affuble, mais qui a quand même une très grande liberté à l'égard de la vérité. Cette fille disait vrai. Et elle était catholique. Peut-être que l'histoire m'est revenue en mémoire parce que je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps à la sortie d'une messe alors que je ne l'avais pas vue depuis très longtemps. Elle était catholique et elle disait la vérité. Si les choses pouvaient être aussi simples dans la vie. Elles le sont parfois. Le catholique dit la vérité. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui, le Christ n'est pas en lui. Le Christ, le chemin, la vérité, la vie, le chemin de vérité qui donne la vie. Souvenons-nous, au moment de la Passion, pendant la Semaine Sainte, pendant ce simulacre de procès, quand les grands prêtres et le Conseil suprême cherchaient des témoignages contre Jésus pour pouvoir le faire mettre à mort. Beaucoup présentaient de faux témoignages qui ne concordaient même pas. Vous remarquerez à cet égard, dans la première lecture, l'indulgence de Pierre, qui après avoir retracé la violence des événements, dit « Frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. » Vous savez, c'est un peu comme quand on dit quelqu'un « c'est un malentendu ». Alors que l'autre, vraiment exagéré, a dépassé toutes les bornes, et on dit délicatement, c'est un malentendu, parce qu'il faut bien renouer le dialogue. En cela, l'apôtre Pierre, c'est un bon portier du paradis, le bon portier de la miséricorde, qui l'a fait vivre, effectivement, plein de cette miséricorde dont il a lui-même bénéficié. Cette semaine, après dimanche dernier, qui était l'évangile de Thomas, qui était absent, physiquement absent de corps, je pensais cette semaine aux personnes absentes d'esprit, physiquement présentes, mais dont l'esprit est ailleurs. Pas à un moment donné, plongées en permanence dans leurs pensées ou dans leurs rêveries. Mais des rêveurs, mais de façon pathologique, pathologiquement absorbés dans un autre monde. On en connaît plus ou moins autour de nous. Enfin, tu pourrais pas faire un peu attention là. Surtout les maîtresses de maison me comprennent quand elles envoient leur mari ou leur fils, je ne sais pas, c'est assez masculin là-dessus, faire des courses, et on dit oh, mec. Et elles viennent me voir après, on dirait qu'ils font exprès pour que je leur demande plus. Est-il possible d'être saint et absent d'esprit? Je pense toujours à un confrère qui était en permanence dans les vapes, on l'aimait beaucoup, mais on l'appelait l'absence réelle. Une des qualités majeures, fondamentales du Christ Jésus, c'est son attention aux personnes. Il est à la fois attentif et attentionné. Hier, nous avions une réunion de préparation au mariage et je leur disais aux fiancés, le principal adjectif que vous utilisez, qui est merveilleux justement entre amoureux, attentionné. Faire attention aux autres, aux personnes, aux situations, mais aussi aux objets, aux choses. Et pour Jésus, avec une patience admirable, infinie. Coûteuse, on le lit à certains moments dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Génération incroyante, combien de temps devrais-je encore vous supporter ?» Oui, c'est coûteux. Parce qu'on peut être saint et dans les vapes, planer, comme on peut être saint et exaspéré par ces rêveurs, saints et soupe au lait comme l'était François de Sales au début de son existence. Parce que ce sont dans tous les cas des réactions de protection, de défense, dont le Christ, dont la sainteté vient justement nous délivrer. Voilà pourquoi Jésus ressuscité vient auprès de ses disciples qui sont barricadés au sens propre comme au sens figuré, enfermés dans leur monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ici dans l'évangile de Saint-Luc, à vous d'en être les témoins. Quand je m'impatiente, c'est un euphémisme, contre ces esprits absents, ces personnes qui sont toujours dans leur bulle, le Seigneur me demande avec une grande douceur, est-ce que tu sais seulement pourquoi ils se sont réfugiés ainsi? Est-ce que tu sais les difficultés, les épreuves, l'hostilité qu'ils ont pu rencontrer? Est-ce que tu crois que c'est en les secouant, en les rudoyant, qu'ils vont reprendre confiance? À la fin du livre de Jonas, par deux fois le Seigneur demande au prophète, « As-tu raison de te mettre en colère? As-tu vraiment raison de te mettre en colère? Fais attention que ta colère ne t'enferme pas, toi, à ton tour. » Le Christ ressuscité demande à ses disciples s'ils ont quelque chose à manger. Alors nous disons que c'est pour prouver qu'il est bien vivant. Mais c'est aussi, voire même peut-être surtout, pour avoir quelque chose à partager avec eux, pour les aider en donnant à sortir de leur peur, à revenir à la vie, à revenir à l'instant présent, à être présent à lui, le Christ, qui se rend présent pour eux. Chaque fois que nous pouvons sortir de notre bulle, nous ne pouvons pas toujours, mais chaque fois que nous pouvons donner de notre attention, le Christ est présent. Chaque fois que nous pouvons revenir sur terre, voilà, c'est ce que nous vivons à cette messe, à chaque instant. Nous voulons revenir sur terre pour aller au ciel. C'est ça ce qui se passe à la messe, avec le pain et le vin, avec nos offrandes, avec nos demandes, avec nos prières. Revenir sur terre, dans l'instant, pour pouvoir aller au ciel avec lui. Avant d'être chrétien, il faut d'abord être humain. À nous d'en être les témoins.